Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment prévenir les catastrophes naturelles? Généralement, les structures de l'État sont impuissantes devant lorsqu'une catastrophe naturelle survient. Ça peut être une inondation, des glissements de terrain, les éruptions volcaniques, un tremblement de terre et autres. Alors souvent, ces catastrophes causent plusieurs sinistres et en dénombre plusieurs sinistrés qui restent longtemps sans assistance, abandonnés à leur triste sort. Alors quels sont les mécanismes à mettre en place pour prévenir les catastrophes naturelles? Jean-Robert Bois Ngoy est ingénieur spatial, géospatial. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'on entend par catastrophe naturelle?
Bon, alors, ce sont des situations qui arrivent en déviation par rapport à la normale. Mm-hmm. Donc, par exemple, il y a subitement une inondation, donc de l'eau qui envahit des zones habitées, mm-hmm, ou des érosions. Dû à un certain nombre de phénomènes, il peut arriver qu'il y ait, par exemple, des tremblements de terre ou des volcans. Donc, et nous, ici au Congo, on connaît quand même suffisamment bien beaucoup de ces phénomènes-là.
Mmh. Donc, on dit une catastrophe, c'est une situation, une calamité, quelque chose qui...
Et qui dévie par rapport à la normale.
Par rapport à la normale.
Voilà. Mmh. Qui vient perturber la vie normale.
Et qui touche la vie de plusieurs personnes.
Hein. Exactement. Donc, une déviation dans l'environnement par rapport à une situation normale. Normalement, nous savons que, bon, il y a des saisons, il y a... On a su s'adapter à tout ce qui vient à cause de la rotation de la Terre, et au mouvement apparent autour du Soleil. Bon, on sait s'adapter par rapport à tout ça. On a une atmosphère qui donne généralement, donc qui participe assez à la saisonnalité, à tous ces phénomènes. Mmh. Bon, maintenant, dès que c'est qu'on veut ou ce qu'on attend n'arrive pas, ou que quelque chose d'autre arrive de façon anormale au niveau de l'environnement, on se trouve subitement dans une situation de désespérance. On se trouve dans une situation de catastrophe, si tu veux. Et c'est ça un peu.
Voilà. Pouvez-vous citer quelques exemples des catastrophes naturelles qui arrivent souvent ici chez nous?
Oui, bon, chez nous, je crois que le plus important, ce sont les éruptions volcaniques autour de la ville de Goma. Nous en avons eu déjà, donc, à l'échelle de ma vie, on en a eu deux fois. Mmh. Dans les années 70, il y a eu éruption du volcan à Nyiragongo. Et puis, tout dernièrement, tout récemment, il y a eu l'éruption du même volcan. Donc, et puis, vous savez que la plupart des montagnes dans l'Est, surtout à côté de la ville de Goma, ce sont des montagnes de volcans. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive très, très fréquemment. Il arrive des situations de solifluxion, notamment dans le territoire d'Ouvira, où les sols, lorsque on arrive souvent lors des années El Niño, comme cette année-ci.
C'est quoi l'année El Niño?
El Niño, c'est une situation qui arrive naturellement où au niveau de l'océan Pacifique, il y a vibrations subites des ondes. Donc, ça arrive normalement au mois de décembre, presque tous les 10 ans. Tous les 10 ans, tous les 11 ans. Donc, et ce phénomène-là s'accompagne globalement dans le monde d'un certain nombre de phénomènes, notamment une intensification de la pluviosité chez nous ici en RDC. Et cela s'accompagne souvent, par exemple, dans les territoires d'Ouvira, d'une solufluxion, c'est-à-dire les sols qui se liquéfient et commencent à couler comme des rivières.
Il y a coulé des boues.
Oui, mais c'est vraiment liquide. Hein. Les sols deviennent carrément liquides et commencent à couler.
Et ça emporte les
ah, bien sûr. Si vous avez une maison, ben écoute, une maison qui est bâtie au-dessus d'un sol qui devient liquide, elle part directement
fini,
et tout le monde avec. Il y a aussi souvent, autour des villes de Kisangani, de Kinshasa, de Mbandaka, il y a des inondations hein, dans les abords des lacs, des rivières, tout ça. Donc, il y a des inondations. Souvent, autour des années El Niño, il y a ces inondations-là. Vous avez vu ici à Makelele, hein, nous avons vu Makelele 2 fois. Et voilà, donc, mais il faut pas oublier, on oublie souvent que nous sommes ici à Kinshasa et les cratères ne sont pas très loin d'ici, hein, même si on n'a jamais vu des tremblements de terre ici, mais nous sommes dans une zone dans l'emprise des tremblements de terre, des cratères qui se trouvent juste à côté de Inga. Donc, vous voyez, et on en a eu des tremblements de terre dans le territoire de Kongolo. Il y a pas très longtemps. Donc, il y a quand même passablement des situations catastrophiques qui arrivent dans le pays et qui normalement appellent à une certaine planification de la part des opérateurs publics.
Et comment faut-il prévenir ce genre de catastrophes? Parce que généralement, quand ça arrive, tout le monde est désarmé, impuissant, on ne sait pas par où commencer.
Bon, c'est,
mais il est important de prévenir.
Oui, mais le problème ici chez nous est que on est pris un peu au dépourvu parce que on ne prévoit pas. On ne prévoit pas. Il faut faire des études. On sait que partout dans le monde aujourd'hui, on sait que c'est l'année El Niño. La plupart des pays anticipent déjà. Ils ont des modèles et ils étudient le passé, ils voient qu'est-ce qui s'est passé et ils prennent des dispositions. Ici, en République démocratique du Congo, il n'y a aucune disposition qui a été prise, alors que on sait que c'est une année El Niño, que
l'année 2015.
Oui, donc El Niño va avoir lieu entre le 20 et le 29 décembre. Donc on sait que c'est une année El Niño et là on n'a pas pris des dispositions, mais on sait que cette année-là, par exemple autour du mois de mai, lorsque les sols sont très saturés, il y a des érosions et il y a aussi des inondations. Donc on a, lorsque la dernière fois lors de l'émission, vous avez appris que une auditrice de Dungu avait dit qu'il y avait déjà des inondations à Dungu. À Bumba, il y a des inondations aussi. Bon, mais on se laisse prendre au dépourvu. On a aucune planification, on n'investit pas dans la recherche pour essayer de savoir qu'est-ce qui va arriver. Je viens de vous dire, là, nous sommes en zone, nous sommes pas très loin du cratère qui est à Inga. On la voit lorsqu'on regarde les images, on voit les images satellites, on voit que, voilà, il y a une faille à ce niveau-là. Maintenant, ici à Kinshasa, on ne prend pas de dispositions, on ne dicte pas des normes de construction strictes. Hein, pour prévenir au cas où il y a un tremblement de terre. Donc nous sommes toujours surpris. Même à Congolo, on était surpris. Mais ce sont des choses, il y en a beaucoup de choses pour lesquelles on peut prévenir.
D'accord. Je reviens à vous dans quelques instants. On va accueillir Eric Mbala de Kinshasa et Jerry Mido de Bandundu-Ville.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Comment prévenir les catastrophes naturelles? Eric Mbala, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur l'animateur. Enchanté d'intervenir en ce début de l'année à votre émission, surtout sur un sujet qui me préoccupe personnellement. Mmh. Au départ, je suis responsable coordonnateur d'une ONG au niveau qui a un caractère national et international, qui s'occupe de prévention des risques naturels en Afrique, et nous sommes basés ici à Kinshasa. Okay. Alors, comme le pays est totalement catastrophique, j'interviens dans votre émission pour réellement apporter un petit quelque chose pour notre souci qui nous anime à ce que le pays soit doté d'organisations comme dans les autres pays au monde. Puisque vous voyez, quand il y a catastrophe dans le monde, dans les 15 minutes qui suivent, il y a intervention des acteurs de la société. Puisque généralement, les catastrophes se produisent dans la communauté.
Oui.
Or, notre communauté ici en RDC est pratiquement exposée à toutes les catastrophes sans qu'on ait déjà pris des dispositions qui s'imposent. Car le monde maintenant, nous parlons de la modernité, est organisé. Il y a ce que nous appelons l'INISDER, c'est la plateforme internationale qui s'occupe de gestion des catastrophes dans le monde basée à Genève. Nous, personnellement, nous faisons partie de cette plateforme et c'est dans ce sens que nous voudrons quand même apporter notre contribution.
Alors dites-nous, Monsieur Eric Mbala, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les catastrophes? Qu'est-ce que, sur le plan pratique, qu'est-ce qui doit être fait?
Déjà, sur le plan pratique, les autorités doivent déjà prendre conscience à mettre en place une structure de coordination. D'ailleurs, l'OMS a commencé cette activité avec ce que nous appelons le CCA, le Coordination Country Assessment, qui s'occupe des catastrophes dans le domaine de la santé. Et dans cette plateforme, en principe, on retrouve tous les ministères connexes qui interviennent, entre autres le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, qui pratiquement est à l'épicentre. Maintenant, nous demandons aux autorités qu'ils prennent leurs responsabilités pour que nous ne soyons pas toujours en train de subir les catastrophes, mettre des mécanismes qui sont déjà dans le monde, dont nous sommes membres. Malheureusement, au niveau pays, on ne sent pas la volonté d'implanter cette structure.
Vous dites, voulez dire qu'il faut mettre en place une structure de coordination. Quelle est la mission de cette structure?
La mission de cette structure, d'une part, c'est la mobilisation de l'expertise au niveau des techniciens, des experts, et la mobilisation des ressources financières au niveau des plateformes dans lesquelles le monde entier adhère, dont l'INISDER, et puis mettre maintenant des mécanismes de déclenchement d'alerte précoce dès qu'il y a catastrophe et qu'on ait surtout une cartographie de toutes les catastrophes qui se posent dans le pays. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que notre intervenant qui est là nous a bien explicité toutes les catastrophes pratiquement qui sont à l'est. Mais par contre, à travers tout le pays, nous avons les inondations, nous avons tout le monde, tous les accidents que nous trouvons dans nos rivières. Donc, il faut réellement qu'il y ait un mécanisme d'intervention avec alerte précoce, comme nous voyons déjà dans le domaine de la santé quand il y avait Ebola. Il y a le mécanisme au ministère de la Santé qui permet facilement de déclencher la surveillance épidémiologique. Alors, et même on peut le faire dans tout le domaine comme la catastrophe naturelle. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci, monsieur Eric Mbala de Kinshasa. Jerry Mido, vous êtes à Bandounouville. Bonjour.
Et bonjour, Jody Gacham. Je vous souhaite aussi une excellente année parce que c'est ma première émission de l'année 2015.
Donc, merci beaucoup, on vous écoute.
Nous, à Bandoundou, nous ne vivons pas ce type de catastrophe naturelle. Donc, la plupart à Bandounouville, ça ne se présente pas. Mais ce que j'ai constaté, souvent, si vous creusez un trou où on a eu des briques à daube pour construire des maisons. Lorsqu'un pluie s'abat là, des grands pluies, vous allez constater que l'eau coule directement vers cette puits-là. Et donc, après la pluie, vous allez constater qu'il y a des petits cassures là et dedans. Mais je peux demander à l'invité s'il y a l'eau qui, dans la pluie qui. Qu'est-ce que je peux dire? Si la pluie pleuvoit chaque fois, est-ce que ça peut poser un catastrophe naturelle là? C'est pas ma préoccupation.
Merci, monsieur Jean-Robert.
Oui, merci Géry pour la question. Je crois que lorsque vous creusez un puits, vous créez un type, une espèce de bassin, et c'est normal que les eaux de ruissellement vont aller directement oui. Atteindre ce bassin-là. Ce bassin, oui. Donc c'est comme si c'était un lac minuscule. Et les eaux vont venir à ce niveau-là. En principe, dans les régions comme Bandounouville, ces eaux-là vont s'infiltrer. La topographie est assez plane. En général, vous allez voir que il y aura ensablement. Donc, il y aura plutôt sédimentation de ce bassin-là dans les quelques années qui viennent, ce bassin va être complètement rempli de sédiments. Donc, il n'y en aura même plus. Quelquefois, ce ne sera même plus visible. Mais ça dépend de la quantité des eaux qui arrivent et de la quantité des sédiments qui arrivent. Mmh. Donc, en principe, il ne devait pas y avoir de problème, sauf si vous creusez à côté de la maison ou à côté de votre fondation. Donc, c'est clair que il va avoir par des mécanismes physiques, le solage va être affecté. Donc, oui. Il faut pas creuser à côté de la maison, mais en principe, comme à Bandounouville, la topographie est plane, il y aura sédimentation, donc le bassin va se sédimenter très rapidement.
D'accord. Et Jean-Robert, vous avez suivi l'intervenant de tout à l'heure qui dit qu'il faut mettre, pour bien prévenir les catastrophes naturelles, il faut mettre en place une structure de coordination qui va mobiliser les experts, les ressources, qui mettra en place les mécanismes d'alerte et surtout qui va mettre en place une cartographie, comme il a dit.
Bon,
des zones à risque ou des zones où il y a souvent des catastrophes.
Oui. Il faut dire que on parle de catastrophes naturelles. Donc, souvent, les catastrophes sont inévitables. On ne peut pas les éviter. Lorsque, par exemple, il y a eu Katrina, je travaillais encore à USGS, aux États-Unis, et à l'université. Nous avons vu Katrina pratiquement une semaine avant qu'il arrive jusqu'au sol. On a suivi la NASA et le département, le service géologique des États-Unis, ont suivi
l'évolution
depuis la création jusqu'à ce qu'il est arrivé, à Nouvelle-Orléans. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai pris la photo. Donc, l'image qu'on a eue, une des premières images qu'on a eues de la NASA, je donnais à mon fils pour qu'il aille faire la présentation à l'école. Et Katrina devait arriver et il était inévitable. Tout ce que on doit faire, c'est d'avoir un système où on doit avoir une réponse rapide. On sait que Katrina va venir.
Mmh.
Et là, par exemple, le maire de Nouvelle-Orléans avait lancé l'alarme. Ils ont dit que tout le monde puisse évacuer la ville. Que tout le monde quitte la ville. Mais vous savez
que les gens vont quitter pour
les gens sont toujours têtus. ils ne quittent, tout le monde ne quitte pas. Les gens se disent, je veux monter sur le toit. Il y en a qui disent, je veux faire ceci. Donc, oui. Ils imaginent un certain nombre de choses.
Oui.
Et c'est pour cette raison que le gouvernement doit avoir un système de réponse rapide. S'il arrive qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté, on doit sauver les citoyens. Et même, vous voyez, dans le cas des États-Unis, il y a eu le gouvernement américain. Le gouvernement de M. Bush avait vraiment failli à son devoir. Là. Il a été beaucoup critiqué dans la gestion de Katrina. Ici, chez nous, il n'y a même pas un système de gestion. On ne sait même pas se préoccuper du fait que, voilà, il peut arriver ceci. Je viens de vous parler des failles qu'on a à Imla.
Est-ce que la météo, nous avons un service météo, à partir de ces services, on peut avoir des informations sur, par exemple, une catastrophe qui arrive?
Bon, je ne sais pas le niveau d'équipement de notre service de la Metelsat pour le moment. Lorsque j'étais encore fonctionnaire ici au ministère de l'Environnement, on avait eu un projet pour que le service, que la Metelsat puisse être dotée d'un système qui lui permette de voir, de prévoir surtout les problèmes climatiques à l'avance. Mais je ne connais pas actuellement le niveau d'équipement. Je pense que ce niveau d'équipement est très médiocre. Le gouvernement doit investir parce que pour le moment, à court terme, on sait prévoir un certain nombre de choses. Pas nécessairement les éboulements, les tremblements de terre. Ça, ce sont des choses qu'on peut pas prévoir nécessairement. Mmh. Mais nous avions, par exemple, le centre de recherche à l'UIRO qui suivait la situation géophysique dans l'Est. Et ce centre-là, aujourd'hui, n'est plus équipé.
L'UIRO, c'est
L'UIRO, c'est pas loin de Bukavu.
Oui. D'accord. Donc, un instant, on va accueillir Aimé Minakou depuis Siro et Eric Banza de Lubumbashi. Aimé, bonjour.
Bonjour, Jodé, je salue l'invité.
Oh, oui, on vous écoute.
Oui, j'ai une question de savoir. Apparemment, lorsqu'il pleut, bon, les gens ne savent pas comment se protéger contre la foudre, surtout lorsqu'on se retrouve dans un endroit où il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'abri, pas un arbre sous lequel on peut attendre la pluie. Alors là, j'aimerais savoir comment se protéger là, lorsqu'on se retrouve dans ces endroits-là, ne pas être foudroyé.
D'accord, merci. Eric Banda de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody. Je ne vais pas depuis Kolwezi.
Vous êtes plutôt à Kolwezi. Bien, on vous écoute. Hein.
Oui. Ok, je salue l'invité. J'ai des petites préoccupations, plutôt des petites questions.
Oui.
J'aimerais un peu que l'invité me donne un peu, d'une façon éparpillée, là, les appareils de mesure qui nous permettent de bien détecter quoi.
Les catastrophes naturelles. Ok.
Oui. Et la seconde préoccupation, c'est plutôt la seconde question. Est-ce que la pluie, hein, ou la saison de pluie, est aussi une catastrophe naturelle ici au Congo, ou bien c'est un phénomène naturel? C'est un peu ça, mes deux préoccupations.
D'accord. Merci. Jean-Robert Bangoré.
Oui. Notre auditeur de Issirou
a parlé de la foudre, comment se protéger d'une foudre.
Une question importante, mais vous savez que...
Est-ce que c'est aussi une catastrophe naturelle?
Oui, ça arrive, ça crée des dégâts, c'est normal. Maintenant, c'est difficile d'avoir un protocole pour se protéger contre la foudre. Donc, généralement, Il y a des endroits où on a eu fréquemment des foudres et on met des paratonnerres à ces endroits-là ou des parafoudres à ces endroits-là. Il faut en général éviter d'être à des endroits où il y a une polarisation, c'est-à-dire pour éviter, par exemple, puisque l'électricité va aussi attirer la foudre et tout ça, donc il faut éviter ce genre de choses.
Mm-hmm.
Mais normalement, lorsqu'il pleut, maman, autant que faire se peut, restez à la maison. Si ça vous arrive en cours de route, bon,
à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
À ce moment-là, il n'y a pas
trouver
de...
Trouver un abri?
Oui, on n'a pas de choix. Trouver un abri, mais ça peut aussi être un problème. Vous pouvez vous abriter sous un arbre qui peut aussi tomber, parce que pendant l'épisode pluvieux, vous savez que les racines deviennent aussi... pas très solide, donc l'arbre n'est pas solidement ancré.
Ou les branches,
pleut, donc,
à cause
et
de,
puis
du
les
vent.
Branches à cause du vent et tout ça. Donc, d'une manière générale, il n'y a vraiment pas un protocole précis pour dire qu'on peut se protéger contre la foudre, mais s'il n'y a pas de parafoudre, là où on est, essayer de rester le plus possible à la maison.
D'accord. Par rapport à la question d'Éric de Colézy et des appareils pour de détecter
une catastrophe naturelle. Il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent et chaque domaine et chaque champ d'études a un appareillage
spécifique.
Donc on a parlé de notre centre de météorologie, par exemple. On parle souvent, on voit, on utilise les images satellites. Les satellites voient ce qui arrive au niveau de l'atmosphère, donc ils détectent. Aujourd'hui, on est en train d'envoyer davantage de satellites dans l'espace pour essayer de détecter des phénomènes qui se passent en dessous.
Mais on n'a pas encore ces équipements, là. Oui.
C'est très difficile. Même au niveau international, il est très, très difficile de voir ce qui se passe en dessous. Donc, par exemple, prévoir des phénomènes comme le volcanisme ou les tremblements de terre est extrêmement difficile.
Maintenant, comment sonner l'alarme? Par exemple, vous avez dit aux États-Unis, par exemple, avec Katrina, il y a eu on a sonné l'alerte pour dire aux gens, faites attention parce que il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce qu'on peut pas aussi créer ce mécanisme ici chez nous?
Ben, bien sûr, pour le moment, vous savez, les images de la NOAA sont gratuites et fournies toutes les 30 minutes. Donc, tout le monde peut voir à travers ces images-là les mouvements de masse d'air. On sait les voir. Ça, et puis c'est gratuit. Donc, et il y en a beaucoup maintenant des satellites qui regardent. En ce qui concerne l'atmosphère, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Par exemple, Katrina, on pouvait le voir. On peut voir le cyclone. On peut voir tous les cyclones. On peut voir tous les mouvements de masse d'air. Et à partir de là, on peut prévenir. Et je crois que c'est pour cette raison qu'on a créé que l'ancien service de météorologie a été couplé au service de télédétection par satellite pour que ce service-là puisse utiliser tous les outils satellitaires qui existent dans le monde et sonner l'alarme au niveau de la communauté. Bon, malheureusement, vous avez vu ce qu'on en a fait. On s'est construit des parcelles tout autour et on ne sait pas c'est quoi l'avenir de la Metelsat. Pourtant, c'était un service qui doit exister et qui doit rendre des services à la nation.
Bien, et la deuxième question, c'est de savoir est-ce que la saison des pluies est une catastrophe naturelle, parce que peut-être il pose cette question, parce que généralement quand il y a la saison des pluies, il y a des inondations, il y a des problèmes, des pluies qui se succèdent et qui causent des problèmes
dans des
communautés.
Et quand il n'y a pas de pluie, vous avez vu ce qui se passe en Éthiopie. Donc l'eau est vraiment là pour régler notre activité dans la vie. Rester seulement à la maison sans eau pendant une semaine, vous allez voir donc tout le monde devient nerveux de toutes les façons. Donc non, la saison est un phénomène naturel qui résulte de la rotation, disons, de la translation de la Terre autour du Soleil. Et ici chez nous, nous avons la zone de convergence qui est associée à cela et qui vient du nord au sud. Donc, il passe une fois, il va jusque vers la Zambie. Bon, disons du nord au sud, mais en fait, c'est du nord-ouest vers le sud-est. Et d'une manière générale, s'il pleut normalement, nous sommes déjà habitués à ça. Nous sommes habitués au fait qu'il va commencer à pleuvoir en septembre et qu'il va avoir un arrêt de précipitation en janvier et qu'en février sera sec et qu'il y aura encore une reprise de précipitation en mars
Juste... Est-ce que la Météo Sainte peut prévoir que durant telle période, il y aura des très très fortes précipitations qui pourraient causer des,
à court terme,
des dégâts?
À court terme, il devait être capable de modéliser. À court terme, avec une bonne précision, il devait être capable de modéliser. À long terme, ils vont modéliser, mais comme je vous ai dit la fois passée, tous les modèles sont faux. Hein? Donc, mais les modèles sont utiles. Mais tous les modèles sont faux. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Donc, ils peuvent modéliser que, voilà, en telle année, il va possiblement avoir tel phénomène comme El Niño et que nous allons avoir des précipitations anormales. D'une manière générale, chez nous, en RDC, c'est El Niño qui nous amène une situation de pluviométrie anormale. Mais, d'une manière en générale, c'est comme dans la normale. Et donc, quand il pleut ou quand il y a une saison de pluie, c'est normal. Ça vient pour que nous puissions aussi avoir la végétation, que nous puissions faire des cultures. Mm-hmm. Hein, donc, la pluie n'est pas une mauvaise chose.
Voilà.
Mais lorsqu'il y a excès de pluie, là, on a un problème. Et on peut modéliser et estimer qu'on va avoir un excès de pluie et prévenir ceux qui produisent, prévenir ceux qui vivent au bord des lacs ou au bord des rivières, ou ceux qui sont en zone collinaire, comme à Kinshasa, où le sol est sablonneux, que voilà, avec un excès de pluie, il peut arriver des érosions ou tel autre phénomène.
Bien, on va accueillir un Mongo depuis Yarou, en province orientale, et Roger, qui se trouve également dans la même ville.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiocapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiocapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment prévenir les catastrophes naturelles? Jean-Robert Bouangoy, ingénieur géospatial, est notre invité. Mongo, vous êtes à Arou et Roger également. On commence avec Mongo, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à l'invité aussi.
Quelle est votre question?
Bon, j'avais une question. L'invité parle, il dit que cette année d'appeler El Niño, il y a tellement de catastrophes. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut nous énumérer les probables catastrophes qui peuvent survenir cette année et puis essayer de les localiser sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, par exemple, à l'Est, on peut avoir probablement telle catastrophe à Kisangani, à Kinshasa et tout de suite. C'était ça ma préoccupation.
D'accord, merci Mongo. Roger, vous êtes également à Arou. Bonjour.
Bonjour, bonjour Jolie, bonjour à l'invité aussi.
Et on vous écoute, Roger.
Oui, j'ai une question que je vais poser à l'invité, mais j'aurais aimé qu'ensemble nous puissions réfléchir un tout petit peu. Il y a deux domaines particulièrement qui me préoccupent tant. Le premier, c'est que si nous considérons notre territoire d'Arou ici, les gens sont en train de construire et puis ce sont les arbres qui en bâtissent. On n'a pas les arbres pour cuire les briques. Nous avons quand même un service d'environnement. Mais en réalité, si nous constatons ce qui se passe, c'est juste un service de taxation. Alors, je ne sais pas ce que le service d'environnement au niveau national ou le ministère de tutelle pense pour que les gens abattent conséquemment les arbres. C'est-à-dire, à retour, il faut planter autant que possible. Il y a des écoles qui naissent, mais il n'y a même pas de prise de vent. Tout ça, ce sont des catastrophes qui, un jour ou l'autre, peuvent nous arriver. Ça, c'est un. De deux, il y a un problème d'inondation. On ne peut pas éviter l'inondation. L'inondation est aussi naturelle, ça peut arriver, mais on peut quand même diminuer les dégâts de l'inondation. Nous savons tous, très bien, il y a des études qui sont menées, ainsi par là, à travers le monde, par rapport aux sachets en plastique, que nous appelons les sachets en polyéthylène. Les sachets inondent nos marchés, c'est partout, à Kinshasa n'en parlons pas, et tout ceci partout. Tout cela augmente les risques de catastrophes, surtout sur le plan inondation. Et il y a d'autres conséquences aussi dont je ne voudrais pas m'y atteler maintenant.
D'accord.
Alors, il y a un moment donné, oui, rapidement, à un moment donné, il a été, une mesure d'interdiction a été annoncée comme quoi qu'aucun sachet en plastique ne puisse être vendu. Je ne sais pas à quel niveau se trouve cette mesure-là. Et il y a l'OCC qui est censé contrôler tout ça. Moi, je fustige ce service. L'OCC ne fait que taxer. Et puis, nous avons des sachets. Alors, ma question est de savoir, par rapport à comment éviter la catastrophe naturelle, la ville de Goma, je pense que c'était en 2002, avait connu les volcans. Et les gens sont morts, il y a eu des dégâts matériels aussi. Il a été prévu aussi la délocalisation de cette ville. Mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est fait. Et les gens continuent à vivre normalement. À quel, ou du moins, où en sommes-nous avec ce projet-là? Parce que c'est aussi une façon d'éviter les catastrophes naturelles. Je vous remercie.
Merci, Roger. Jean-Robert Bouangoué.
Oui, merci aux deux invités. Je vais d'abord commencer par Roger. D'abord, localiser les catastrophes dans les pays. Bon, j'ai parlé un peu d'un certain nombre de phénomènes qui arrivent dans l'ensemble du pays. Nous avons les volcans, particulièrement autour de au nord Kivu. Nous avons des solifluxions possibles dans le sud Kivu, essentiellement à Uvira. Nous avons des phénomènes d'inondations, particulièrement en année El Niño. Nous en avions connu beaucoup de catastrophes en 1961 ou 62.
Vous voulez savoir c'est quoi El Niño? Vous parlez d'année El Niño, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Bon, justement, je viens d'expliquer tout à l'heure qu'il s'agit de l'oxyation des ondes naturelles au niveau de l'océan Pacifique qui fait une inversion de température des eaux des deux côtes. Donc les côtes des Amériques deviennent plus chaudes que les côtes de l'Australie qui sont généralement plus chaudes. Et il y a migration de poissons avec les eaux chaudes des côtes de l'Australie vers les côtes des Amériques et ça se fait entre le 20 et le 29 décembre, presque tous les 10 ou 11 ans. Et ce phénomène-là s'accompagne d'un certain nombre de catastrophes. Notamment, ici chez nous, c'est en année El Niño qu'on a perdu pratiquement toutes les forêts qui y avait au bord du lac Tumba. Donc en un jour, il y a eu une tempête qui a amené, qui a détruit les forêts sur 2-3 kilomètres.
Il y a 10 ans?
C'était en 62, je pense. C'est l'épisode de 62 qui a causé cela.
Et il a dit, est-ce qu'il y a moyen de localiser, par exemple, savoir que El Niño, c'est l'année El Niño, il y aura des catastrophes dans telle partie du pays, peut-il y avoir tel problème.
C'est ça que l'auditeur de tout à l'heure a dit, il faut une planification. On a l'histoire, donc on sait dire ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. On a déjà eu en année El Niño l'inondation des villes de Kisangani et des villes de Mbandaka et ici à Kinshasa, à Kingabwa, il y a des inondations en année El Niño. Il y a eu en année El Niño également les inondations à Makelele lorsque le sol est très saturé. On peut prévoir. Basé sur l'histoire, sur ce qui s'est passé dans le passé, on peut prévoir qu'est-ce qui arrive normalement en année El Niño par endroit.
Alors, il ne faut pas attendre que cela arrive, c'est maintenant qu'il faut déjà mettre en place une structure des coordinations, faire appel aux experts, des ressources et mettre en place un système d'alerte.
Exactement. Bon, personnellement, j'avais vu le ministre de l'Environnement, je lui ai fait une note pour lui prévenir qu'il y avait que nous sommes en année El Niño, que on devait prendre des dispositions pour les endroits qui sont sensibles pour éviter qu'on soit surpris par des catastrophes. Bon, Maintenant, c'est au gouvernement de pouvoir prendre ses responsabilités. Nous sommes des experts, donc moi je suis absolument apolitique, donc tout ce que je fais, c'est de donner, de faire une note technique en tant qu'expert et de donner
l'information. Alors Roger dit, parle des arbres qu'on coupe sans reboiser, alors que les arbres peuvent servir de brise-vent. Il dit ça va plus tard causer aussi des catastrophes naturelles.
Bon, oui, lorsqu'on regarde, je comprends notre auditeur puisqu'il vit à Arou. Si vous essayez de regarder les images satellites, notamment de Arou, vous allez voir, c'est une région qui est vraiment qui a des petites rivières et des petits tarweg, c'est-à-dire des petits endroits où des petites descentes, des petites descentes et remontées le long des toutes petites rivières. Et ils sont très normalement très vulnérables. Cet endroit-là, et si vous regardez les images que nous avons à notre position aujourd'hui, de plus en plus dénudées. Hein, donc on est en train de plus en plus de couper des arbres. Bon, encore une fois, c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité. On a un service, on a un fonds de reconstitution du capital forestier. J'espère que ce fonds-là a été créé pour reconstituer le capital forestier de la République. Bon, maintenant, c'est au gouvernement de pouvoir prendre ses responsabilités. Lorsque les gens qui vivent sur le terrain tirent la sonnette d'alarme, il faut que les gouvernements se mettent à l'écoute.
D'accord. Il a parlé aussi des sachets qu'on utilise et qui peuvent causer aussi des catastrophes naturelles à la longue.
Bon,
les sachets.
Oui, on parle, il y a des pays qui ont fait des mesures d'interdiction des sachets en plastique et tout ça, mais moi je trouve que ce n'est pas, si vous allez dans d'autres pays, vous allez aux États-Unis, on utilise aussi les sachets. On les retrouve pas dans la rivière. C'est notre comportement à nous qui est un problème. Mais c'est pas seulement notre comportement. Encore une fois, là, on interpelle les acteurs publics. Ces sachets-là peuvent être collectés et remis dans un système
réutilisé.
Voilà. Pas seulement réutilisé, on peut faire, oui, aux États-Unis, j'ai dit que mon fils, quand
on peut les recycler.
Il revient de l'école, il me dit, we have three R's. Nous avons trois R. Reuse, donc réutiliser, recycler, hein. Et il vous dit, on apprend déjà aux enfants à l'école qu'il faut réutiliser les sachets, les recycler, tout ça pour éviter qu'on puisse aller les jeter dans la rivière.
D'accord.
Effectivement, si vous regardez les rivières ici à Kinshasa,
oui,
vous allez voir que aller aujourd'hui sur la rivière Kalamu, pont Bongolo,
oui,
ces sachets-là sont en train de bloquer le mouvement des eaux. Et donc, demain, le pont peut être emporté à cause d'une petite erreur comme celle-là.
Oui.
Alors qu'on peut récupérer ces sachets,
d'accord,
les mettre dans un camion, amener à Plastica.
Donc, Jean-Robert, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieur géospatial. Avec vous, on a parlé de la prévention des catastrophes naturelles. Merci et à la prochaine.
Merci.